Vous êtes toujours avec nous sur Bac FM le mercredi, c'est Youpi, double CDLP culture, c'est ce qu'on préfère. Ici sur Bac FM et en cette période de canicule, il fait chaud, il fait beau, c'est peut-être l'heure d'aller se refroidir, se rafraîchir, devrais-je dire, dans nos salles obscures. Et ça tombe bien, puisque mon invité traditionnel du mercredi est là dans notre studio, c'est Michel Petit-Fontanelle, secrétaire adjointe de l'ACNE, chargée de la programmation du choix du film. Bonjour Michel.
Bonjour Maxime et tous et toutes.
Nous commençons cette semaine avec un film qui s'appelle « Le garçon qui fait danser les collines ».
Alors ben, là, c'est aussi un cinéma qui est rare puisque c'est la Macédoine. Voilà, le film « Le garçon qui faisait danser les collines » est de Georgi Unkomski. Ahmed, 15 ans, garde les moutons de son père tout en prenant soin de son petit frère. Mais lui, ce qui le fait rêver, c'est la musique et ses envies d'ailleurs. Face à un conservatisme profondément enraciné, très pesant, le film célèbre une jeunesse qui veut vivre, rire, s'abandonner au mouvement et rappeler aux anciens l'essentiel, écouter, respirer et peut-être même danser. Le garçon qui faisait danser les collines est une comédie dramatique accessible dès 11 ans et récompensée du Grand Prix Ciné Junior qui offre un univers poétique qui pose des questions essentielles sur la liberté et l'acceptation de soi. C'est une pépite à découvrir.
Une pépite à découvrir dès demain à 13h45, dimanche à 20h, lundi 13h45, mardi à 20h. On part sous le soleil chaud de la Tunisie avec un film qui s'appelle « D'où vient le vent ?»«
D'où vient le vent ?» de Amel Gelati. C'est une comédie dramatique qui a été sélectionnée à Sundance en 2025 et qui a eu 3 prix dans des festivals moins connus au Maghreb. Alissa, une jeune rebelle de 19 ans, et son meilleur ami Mehdi, 23 ans, timide et introverti, utilisent leur imagination pour échapper à leur triste réalité. Ils découvrent un concours qui se tient à Djerba et qui pourrait leur permettre de changer leur vie. Ils décident de faire le road trip, peu importe les obstacles. Après son regard tendre mais lucide, Amel Gelati adopte la forme du road movie poétique pour capter l'élan d'une jeunesse tunisienne rarement représentée à l'écran, vivante, rêveuse, résiliente, loin des clichés. Le film défend avec force l'idée d'une amitié profonde et désintéressée entre filles et garçons, un lien universel. Entre paysages du désert et rivages de Djerba, entre animation onirique et réalisme ancré, D'où vient le vent est une ode à la liberté et au pouvoir de l'imaginaire.
Une ode à la liberté et au pouvoir de l'imaginaire, on pourrait dire ça du cinéma, c'est une belle conclusion. C'est demain à 20h, dimanche à 11h, lundi à 20h, mardi à 16h30. Merci beaucoup Michel pour cette saison. On a présenté plein de films tout le long de l'année. Je vous laisse la parole pour une petite conclusion.
Eh bien, on tenait à remercier Radio Bac FM, Maxime et Laetitia qui nous aident pour présenter les films. L'ACNE remercie aussi tous ses adhérents et tous les gens qui viennent voir nos films parce qu'on est content de faire découvrir le cinéma mondial. Vous êtes bien sûr tous invités à l'AG de l'ACNE qui aura lieu le vendredi 26 juin à 19h au Château des Loges. On vous présentera le bilan de l'année et les perspectives. Et il y a une petite soirée brunch très sympa après. Donc nous, cette année, nous avons eu 355 adhérents. Nous sommes ravis. On espère que l'année prochaine, on en aura autant et plus même, parce que c'est indispensable pour nous, vu nos subventions, si on veut faire venir des réalisateurs. Donc on vous retrouvera à la rentrée le 8 septembre, en espérant que vous pourrez venir.
Et je quitte ma neutralité journalistique une seconde pour évidemment vous encourager à adhérer à l'ACNE. Adhérer à l'ACNE, c'est adhérer à l'exception culturelle française dont parlait Justine Trier. Et croyez-moi, c'est important pour le cinéma, pour la culture et quelque part pour la France. Merci encore, Michel, pour cette chouette saison.
Merci à vous tous.
On va parler d'une autre forme d'art, de culture, de collage, puisque je reçois l'artiste extrêmement talentueuse Bikini. Pour ce début d'après-midi dans CDLP, on va parler d'images, de collages, d'humour, de rêves et d'étrangeté. Direction Arco à Nevers, où l'artiste et graphiste et DJ Bikini présente son exposition intitulée Collagène et Turlurette. Pour en parler avec nous aujourd'hui, quoi de mieux que l'artiste en question. Salut Biki.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue sur Bac FM.
Merci beaucoup.
pour les gens qui ne te connaissent pas peut-être, est-ce que tu pourrais présenter un peu ton univers, si j'ose dire ?
Oui, alors j'ai un passé publicitaire, mais je fais des images que je base un petit peu sur la condition humaine, les scénettes. Alors, j'aime autant les petits croquis que les collages. Voilà, donc c'est plutôt une imagerie un peu populaire. Et voilà.
Et c'est déjà pas mal. Tu signes tes travaux sous le nom de Bikini, c'est un pseudo rigolo pour un nom d'artiste. Tu ne signes pas sous ton vrai nom, Anaïs Éléonore.
Oui.
D'où vient ce nom d'artiste ?
Ah, alors c'était il y a très longtemps, c'est ce fameux mot qui, je voulais quelque chose de mignon et très très puissant à la fois. Et les petites pièces de bikini, les petits maillots de bain qui viennent du Brésil, je trouve ça très chou. Et les atolls bikini, c'est surtout l'archipel d'îles où on a fait les premiers essais de la bombe atomique. Donc voilà, je trouvais ça assez, j'aimais les contradictions et donc voilà, j'ai vite choisi bikini parce que je trouvais que c'était un mot mignon.
On va rentrer dans ton travail, mais je me demandais avant s'il y avait une différence entre Anaïs et Bikini.
Non, Anaïs et Bikini font partie de la même entité. Voilà, c'est tout. Bon, après, ce qui est bien quand on a un peu un personnage de artiste comme ça, c'est que oui, on peut se permettre peut-être un peu plus de liberté que le personnage administratif Anaïs Éléonore, numéro de sécurité sociale, numéro... Non, je rigole.
Heureusement qu'on mettra des bips à l'antenne.
Ça commence par deux, en tout cas, je peux vous le dire, parce que je suis une femme.
Effectivement, voilà. C'est comme ça que marche la sécurité sociale.
C'est ça.
Ton exposition s'appelle Collagène et Turlurette, si je le prononce correctement.
Oui.
Les collagènes, si je ne m'abuse, c'est tout ce qui est crème pour visage. En revanche, Turlurette, j'ai dû faire une petite recherche quand même.
Ah bon?
C'est soit, alors, selon Google Chrome, une source implacable, c'est soit une ancienne guitare du Moyen-Âge, soit la liberté. Alors.
Soit la liberté? Bah, du coup, tu m'apprends quelque chose, parce que moi, à la base, j'ai pris une commune de Souvigny-les-Bois où je trouvais le nom, j'ai toujours trouvé le nom très, très mimi, très affriolant, la Turlurette. Et en plus, oui, comme tu dis, c'est un instrument de musique et je me disais que c'était vraiment bien pour aller avec le collagène. Bon, parce que déjà je suis collagiste, je fais des collages, mais collagène aussi parce que y a le temps qui passe et que c'est la petite matière élastique qu'on a tous dans notre peau et qu'on perd au fur et à mesure de la vie.
Donc c'est un mélange entre le temps qui passe, les collagènes donc, et ce magnifique mot, turlurette.
Voilà, à la base je voulais dire collagène et turlute, mais je me suis dit que turlurette c'était beaucoup plus local.
Ah bah justement, dans l'article de nos confrères et consoeurs du Journal du Centre, tu expliques qu'il y a un clin d'œil à Infi, donc pour parler du temps qui passe.
En fait, c'est une commune de Souvigny-les-Bois.
Okay.
J'ai fait une erreur dans l'article du JDC, j'ai dit une commune d'Infi parce qu'elle colle Infi, mais c'est Souvigny-les-Bois.
Souvigny-les-Bois, donc oui. On salue nos auditoristes de là-bas. Pourquoi le temps qui passe, cette espèce de nostalgie t'intéresse ?
Alors, je pense que ce qui est bien dans la vie, c'est de gagner de l'expérience et c'est le regard qui change un peu qu'on a sur la vie et tout. C'est vrai que c'est ça qui m'intéresse. Voilà, la nostalgie, on peut en tirer une richesse, hein, parce que je veux pas. Parce que j'ai fait dans mon expo des petites icônes où je reprends des vierges du 15e siècle où je leur ai peint des larmes dorées. En fait, ce que je veux dire dans la larme dorée, c'est que la nostalgie, les expériences passées, c'est aussi une force et un trésor qu'on a tout au cours de la vie. C'était quoi ta question au début ?
Je voulais savoir ton rapport à la nostalgie, parce que ça m'intéresse.
C'est vrai, c'est vrai. Donc pour moi, En tout cas, la mélancolie, en tout cas, ce qui est de la mélancolie, on croirait que c'est de la tristesse, mais en fait, c'est de l'absence de. C'est quand tu es posé comme ça, c'est de l'absence d'émotion. Et c'est ça qui fait qu'on observe peut-être un peu plus librement ce qui nous arrive. Et donc, la nostalgie, pour moi, c'est pareil, c'est quelque chose de fondateur dans une personnalité, dans une vie humaine, voilà.
Il y a deux écoles sur la nostalgie que je trouve assez intéressantes. Soit globalement, c'est une accumulation d'épreuves qui font de nous la personne de laquelle on est, hein, les rencontres que l'on fait, les événements que l'on vit. Soit ça peut être un boulet au pied aussi. Tu vis trop dans le passé. C'est quelque chose qu'on peut entendre parfois.
C'est vrai.
C'est le juste milieu qui t'intéresse, toi, ou comment ?
Oh, bah c'est obligatoire hein, d'avoir un juste milieu. Il faut toujours regarder devant, de toute façon, parce qu'en fait, il n'y a que le présent qui existe. Mais le passé, on peut s'appuyer dessus, parce que ça peut nous donner de la force. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas toujours regarder derrière, parce que ça mène à rien. C'est vrai qu'il faut... Après, c'est des directions psychologiques qu'il faut garder, oui, bien sûr. Mais comme je suis très intéressée par les émotions et la vie humaine, vraiment les obsessions, le désir, les choses comme ça, c'est vrai que ça a un poids dans mon travail de regarder derrière, en tout cas de comprendre ce qu'on a ressenti.
Toujours dans l'article du Journal du Centre, tu expliques vouloir mettre de l'humour dans une société qui, je cite, est un peu terrifiante.
Oui.
Qu'est-ce qui te fait peur, Bikini?
Oh bah, bon, au risque de dire des boncifs, c'est vrai que le monde... est-ce que c'est pas un peu nostalgique ce que je dis? Il y a beaucoup de choses bien dans le monde moderne, mais je pense qu'on est quand même au tournant d'une société qui est quand même en destruction un petit peu.
T'es partisane du « c'était mieux avant » ?
Oui, mais je suis aussi partisane de « ça va être fantastique bientôt ». Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup, quand même, beaucoup de facilité, il y a beaucoup de confort. Mais c'est vrai que je ne crois pas beaucoup au confort pour avancer spirituellement. Parce que je pense qu'une vie, elle est faite pour avancer spirituellement. Bon, je ne veux pas vous paraître trop perché, mais le « c'était mieux avant », oui. Bon, après, ça a toujours... Quand on dit « c'était mieux avant », je pense qu'au Moyen-Âge, ça devait être bien difficile. Hein, voilà, donc chaque époque a des bons côtés et des mauvais côtés. Là, on est quand même... J'ai l'impression qu'on est dans une période un peu... limitrophe entre une avancée extraordinaire et une déchéance totale.
Ton travail parle beaucoup du corps, hein, notamment de la beauté de celui-ci. Est-ce que tu essayes un peu de sortir des images un peu stéréotypées? On en parle beaucoup sur Bac FM, avant c'était les magazines, maintenant c'est TikTok, on voit des femmes qui sont présentées comme parfaites avec des critères pour le coup un peu patriarcal, donc grande, mince, etc. Est-ce que tu essaies de sortir de cette image-là?
Oui, tout à fait. Je ne sais pas si tu avais vu l'expo. En fait, j'ai fait une grosse toile d'une dame un petit peu en chair, qui est couverte de tatouages, et elle a même un couteau dans le dos. Mais oui, alors venant de la publicité, moi j'ai passé des années au début de ma carrière où il fallait que je retouche les photos, où c'était les peaux parfaites. Et il y avait même un certain consensus de faire des images un petit peu... C'est très charté en vérité. On ne peut pas... À l'époque, maintenant, on est sur du... Comment on appelle ça? Positive, ce qui est bien parce que chacun a le droit de se sentir très bien dans sa peau, et donc c'est vrai que j'avance aussi un petit peu vers là, bien sûr. Alors comme je fais des collages et que je prends des vieux magazines, évidemment je travaille avec une imagerie qui est quand même un petit peu chartée, les années 90, les années 2000 où les filles sont vraiment parfaites, mais bon, je les déforme un petit peu, je les abîme, mais t'as raison, le body positive, c'est ce qu'il y a de mieux dans cette époque.
Il y a dans ton exposition des petits collages, et là je cite, gribouillis, hein, ce n'est pas mon mot, c'est le tien, des éléments encadrés. Qu'est-ce qui te plaît dans le collage?
Alors le collage, c'est un peu... ce que j'aime, c'est que c'est un peu comme notre esprit est fait, parce qu'en fait, on est fait de plein de parties. Voilà, comme je disais tout à l'heure, les rêves, les obsessions, le passé, le futur. Voilà. Donc, cette technique de collage, je trouve que ça colle bien à ma vision de l'existence humaine, entre guillemets. Et à côté de ça, j'aime beaucoup l'immédiateté des croquis rapides. Alors, je dis gribouillis, bon, parce que bon, gribouillis, mais le croquis rapide, l'encre, il y a quelque chose de beaucoup plus immédiat, beaucoup plus fort. Donc, j'aime bien allier le collage et des petits dessins à l'encre, alors des petites scénettes comme ça. Et puis, j'aimais beaucoup les dessins animés quand j'étais petite. Donc, j'aime beaucoup voilà, les choses simples comme ça au croquis. Mais j'adore le dessin aussi.
Tu me corriges si je me trompe, mais je trouve que dans le collage, ou même dans le dessin d'ailleurs, il y a une sorte de part de l'enfance, quelque chose qui est ramené à l'imaginaire, c'est beaucoup une activité que pratiquent les enfants. Est-ce qu'il y a un petit côté nostalgique justement, entre toi qui dessines petite et toi qui dessines maintenant?
Non, mais c'est vrai que si je puis me permettre, un artiste en fait garde souvent cette part d'enfance et de... comment dire, de fraîcheur, enfin voilà, de pureté, c'est ça qu'on essaye d'avoir à l'esprit quand on parle de la vie.
Dans l'article, tu évoques beaucoup ton travail d'images générées par intelligence artificielle tirées sur papier d'art.
Oui.
Comment l'IA intègre ton processus créatif?
Alors là, c'était parce que je voulais faire une série d'icônes religieuses. Alors pourquoi, je sais pas, j'ai eu peut-être un accès de voilà, j'aime beaucoup la religion catholique. Ouais, j'aime toutes les religions. Bref, en tout cas, ce que je voulais faire.
Toutes les religions.
Tout à fait, oui, parce que là, je vais m'embarquer dans un discours qui ne sera pas le mien. Mais je voulais prendre des icônes. Et en fait, déjà, ça me fait mal de travailler sur des icônes qui sont déjà faites et tout. Donc, comme je prompte très bien, puisque comme je fais la publicité et que j'ai dû maîtriser très rapidement, donc depuis 2023-2024, les techniques d'intelligence générative, parce qu'à l'époque, donc voilà. Donc, j'ai prompté des vierges du 15e siècle. Alors, j'ai repris le même style d'imagerie, mais sur des images, des visages très jeunes. Et ça, c'est tellement bien sorti que je me suis dit, je vais les tirer sur papier d'art. C'était en haute définition. Et après, j'ai peint à l'or dessus.
Mais moi, je trouve ça intéressant, ce travail autour de l'intelligence artificielle. D'habitude, il est commun de penser que les artistes militent. Il y a quelques collectifs, oui, pardon, qui militent contre. Je trouve ça chouette que tu t'en serves comme outil et non pas comme fin. C'est quelque chose que tu aimerais plus pousser, ça, qu'on peut aussi s'en servir comme...
Non, comme tu l'as très bien dit, c'est un outil. Merci de poser cette question. Et c'est vrai que quand c'est sorti, j'ai tout de suite repéré qu'il y allait avoir... avant et après l'intelligence artificielle générative, surtout pour les faiseurs d'images, les artistes, les photographes et tout le reste. Donc, comme je venais de la publicité, c'est vrai que ça a été très rapide à réfléchir, puisque comme je suis directrice artistique et que je travaillais avec des équipes de gens, des illustrateurs, des photographes, des retoucheurs, et j'ai tout de suite vu que donc je pouvais concevoir une campagne, parce que c'est vrai qu'une publicité, ce qui est d'abord, c'est l'étude de la cible, l'étude de l'idée, enfin la conception et tout ça, et donc je me suis dit je peux donc faire des campagnes à moi toute seule. Évidemment, comme j'ai toujours ce travail de collage, de dessin et de carnet, on va dire, à côté, parce que j'ai besoin de retranscrire ce que je pense, ça a commencé à déborder, à légèrement teinter mon travail d'artiste. Et justement, les collages, pendant des heures, moi, je cherche, je feuillette, je découpe et tout. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais prompter ce que je voulais à partir, dans le style que je voulais, à partir d'une imagerie que je choisis, je me suis dit, mais alors là, bingo, je peux faire les scènes que je veux. Alors, l'intelligence, c'est jamais exact, mais en tout cas... c'est vrai que c'est extraordinaire, c'est de pouvoir faire ça. C'est un outil, voilà, c'est juste un outil. Je vais pas le promouvoir plus que ça, mais c'est vrai que j'invite les faiseurs d'images, en tout cas, à booster leur travail avec ça, parce que on dit que tout le monde peut fabriquer des images maintenant avec ça, et du coup, ceux qui en faisaient déjà avant, ils ont un temps d'avance. C'est ce que je préfère dire.
Je sais pas s'il t'arrive de te balader dans cette superbe ville qu'est Nevers.
Oui.
Mais il y a plein d'événements, hein, d'expos, de visites, d'événements où l'affiche est générée par intelligence artificielle. On le reconnaît en général tout de suite parce que les couleurs sont particulières, les chiffres sont particuliers. Bref, tout ça pour dire que les graphistes, ils ont pas bonne presse, quoi, en ce moment.
C'est plutôt ceux qui choisissent ce genre d'affiche qui ont pas bonne presse, parce que c'est vrai que c'est.
Ça t'embête, toi? Ça, c'est ma question que je voulais poser en tant qu'artiste.
Oh, c'est déprimant. Là, franchement, c'est scandaleux. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai que c'est parce qu'en fait, peut-être les gens n'ont pas l'œil sur ce qu'ils font, parce que je vois même des. On va dire des spectacles et tout qui font leur affiche par intelligence artificielle générative. Comme tu le dis, ça se voit tout de suite. Il y a ce teint jaune qui est un peu fort. Et donc c'est vrai que c'est dommage, c'est beaucoup moins sensible. En fait, je pense que la patte humaine, elle a beaucoup plus de vibrations, elle est beaucoup plus touchante. Et donc, une affiche par intelligence artificielle pour certains types d'événements, c'est vraiment dommage. Moi, ça m'empêche d'aller aux manifestations, enfin aux événements. C'est vraiment dommage, ouais, c'est vraiment dommage. Mais bon, comment expliquer? Peut-être que les gens ne se rendent pas compte, en fait, parce que c'est très psychologique, l'effet d'une affiche, la manière dont on passe les informations. Voilà. Bon, à mon avis, ça va peut-être se calmer au bout d'un moment pour les gens qui ont du goût et de la sensibilité.
Le fait est que ton exposition se déroule à l'Arco, voilà, je cherchais mes mots, chez Arco, devrais-je dire d'ailleurs.
Oui.
Comment s'est construite cette exposition? Ça fait longtemps que tu travailles avec eux?
Alors, j'avais fait une expo solo, c'était en 2024, et qui avait très bien marché. J'avais été ravie parce que j'avais déjà fait des expositions à Paris ou avec d'autres, et c'était ma première expo solo, et vraiment Jérôme Legrand, il nous avait fait un super petit événement de lancement.
Président de Arco.
Voilà, exactement. Et puis en plus, bon, je cache pas que mon travail pareil, avait intéressé et ça avait été vraiment chouette. Et là, dernièrement, je pense que c'est un peu un hasard s'il m'a rappelé. Enfin, c'est un hasard, non, mais en fait, ça a été un peu au dernier moment. Donc, vraiment, l'expo que je présente aujourd'hui jusqu'au 29 juin, c'est des fonds de tiroir d'atelier que j'ai encadrés. Et puis, il y a des choses qui ont déjà été présentées avec les Illus. Il y a quand même du nouveau travail dedans. Voilà, mais en tout cas, Arco, c'est vraiment une jolie galerie, et puis c'est très sympa. Et puis je trouve que j'ai de la chance voilà, d'exposer, c'est quand même un immeuble du 15e siècle, 14e, je crois. Il y a des. Enfin voilà. Voilà, merci à Arco.
On les salue. Est-ce que c'est intimidant en tant qu'artiste de se balader dans l'expo, de voir les gens regarder? On se dit, mince, ils regardent mon travail. Est-ce que oh. Ça fait peur ou est-ce que.
Alors c'est vrai que c'est un peu le fondement de la vie d'artiste, c'est marrant parce que justement quand je parlais d'un fils, parce que je faisais du théâtre à un fils, et j'avais une discussion avec quelqu'un qui me disait ce qui est important c'est qu'il y ait du monde dans la salle, et moi je disais non, ce qui est important c'est que même s'il n'y en a que deux, c'est qu'ils applaudissent fort. Donc en fait c'est vrai que à la fois l'artiste il est attaché au regard de l'autre, même si on est obligé de s'en détacher parce que c'est notre travail, c'est notre vie. Donc oui, c'est toujours un moment particulier de voir les gens qui passent un petit peu de temps à regarder les œuvres. Je suis toujours ravie de répondre.
Tu vas aller voir, ouais, tu réponds aux questions.
Oui, je réponds aux questions, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Souvent, ce sont des questions sur la technique, mais j'aime beaucoup ceux qui posent des questions sur le fond.
Vous savez comment faire plaisir à notre artiste préféré. L'exposition comprend aussi une création grand format intitulée Refuge, réalisée en collaboration avec Laurent Bonté, oui. Autour de cabanes et en récupération, en fait.
Exactement.
Qu'est-ce que cette œuvre vient ajouter à l'exposition?
Alors ça, j'ai été très contente de le faire parce que Laurent travaillait sur des cabanes en dessin et tout. Et je voyais surtout son travail de récupération où il fait des petites cabanes avec des bouts de bois un petit peu aléatoires. Et donc, j'avais toujours eu l'idée de faire une pièce un peu massive pour évoquer le refuge. Moi, j'ai toujours aimé les cabanes, les petites maisons, voilà. Et donc voilà, c'était un refuge. Donc j'ai fait un fond. Enfin, pour ceux qui viendront, ils verront. C'est assez simple. J'ai essayé vraiment de. J'étais contente. Vraiment, la satisfaction, c'est que Laurent était très content de la mise en scène que j'ai fait pour sa petite cabane. Voilà, le refuge. C'est le refuge primaire, j'ai appelé ça. C'est un peu si on revient un peu à un monde un peu comme Avatar, où si on vivait tous dans les arbres et qu'on avait tous des petites maisons comme ça, bah c'est qu'on aurait récupéré comme ça avec des relents de villes oubliées, bah ça aurait été ça, voilà.
Là encore, je trouve qu'il y a une notion un peu de refuge, hein, tu viens de le dire, de protection à l'extérieur quelque part.
Oui, oui, bien sûr. Bah, c'est vrai que je suis une grande aventurière, hein, mais je trouve que c'est important de protéger l'intime, de se trouver précieux, quoi. C'est ça, hein, tu parles de refuge, de protection. Voilà, je trouve que c'est important de savoir ce qui a de la valeur chez nous, et puis voilà, protection humaine aussi. C'est vrai qu'avec avec l'époque actuelle, alors c'est peut-être moi qui suis, j'ai l'impression qu'on va vers quand même quelque chose qui est peut-être vers la destruction, je ne sais pas.
Tu te définirais comme rêveuse?
Oui, alors le rêve c'est ultra important. Après j'ai bien les pieds sur terre, sinon je dis pas, j'en serais pas là, mais ça veut dire c'est très important de rêver les pieds sur terre. Mais le rêve, oui, l'onirisme, bien sûr, c'est tout ce qui fait qu'on se projette, qu'on peut modifier notre perception et puis notre futur, quoi. Donc oui, je suis pour les rêves à fond.
Être rêveur tout en gardant les pieds sur terre, c'est joli comme formulation.
Yes.
Tu es également DJ.
Oui.
Au demeurant. Est-ce que la musique, ta musique, influence ton travail artistique? Ou est-ce que tu fais bien une séparation?
Non, je fais pas de séparation parce que je suis d'un bloc. Mais c'est vrai, par exemple, quand je travaille. Là, en ce moment, je joue beaucoup de techno et de house, enfin des choses très rythmées et très. Parce que j'ai la chance qu'on passe sur des gros gros amplis, mais quand je travaille, c'est vrai que parfois c'est plus de la musique un peu plus planante. J'aime bien le jazz, les trucs expérimentaux un petit peu, voilà. Donc c'est là où il y a une différence entre mon travail de DJ où j'ai commencé en DJ funk et electro funk parce que en fait c'est une énergie très qui bouge, quoi. Et c'est vrai que quand je travaille, c'est plus des musiques qui amènent à l'introspection. Donc c'est peut-être là où il y a une différence entre ma musique de DJ et ma musique de bikini, l'artiste graphique.
D'ailleurs, j'ai posé la question en ce sens-là, c'est peut-être l'inverse. Hein. Peut-être que c'est ton travail visuel qui influence ta façon de faire de la musique.
Oui, voilà, ça doit être ça. Ça doit être ça. Mais j'aime beaucoup danser. J'aime bien quand la musique, elle agite comme ça, où on peut même pas s'empêcher de faire le headbang comme ça. Ou alors
une sorte de pogo.
Oui, voilà, on est obligé de. Ça agite les cellules et ça remue les popotins. C'est ça que j'aime bien aussi dans la musique. Mais c'est ça. J'adore la musique. Si la musique n'avait pas été là... Enfin, je trouve que c'est quelque chose de très fidèle, la musique. Très... on peut compter dessus.
Tu comptes mettre de la musique dans tes œuvres futures, hein, plus créatives, plus manuelles, j'ai envie de dire?
Alors, manuel, c'est intéressant. Après, je fais beaucoup de vidéos depuis ces dernières années, là. Et c'est vrai que, du coup, ça m'oblige à choisir des musiques. Après, il y a des histoires de droits et tout. Mais j'aimerais bien revenir à... faire de la production de musique, ça c'est bien. C'est-à-dire qu'on construit un univers musical par toi-même. Alors je pense que je ferais du collage aussi, du collage musical, quoi. Parce que, voilà. Mais jouer de la musique et ajouter de la musique à une vidéo, c'est pas tout à fait pareil, même si, en fait, tu décides de l'ambiance. C'est ça qui est... Ça peut tout changer. C'est-à-dire que si tu fais un petit collage d'enfants, un petit collage enfantin avec de la musique hardcore derrière, ça va dire autre chose que si tu mettais de la musique de Danny Elfman, par exemple, qui fait toujours les musiques de Disney ou de Tim Burton. Ça change tout, en fait. C'est vrai que... en fait, une œuvre, c'est un tout, quoi. Donc, si tu rajoutes de la musique, ça change tout.
Qui sont les muses de bikini? Tu viens de citer Tim Burton, tout à l'heure tu as cité Avatar, donc James Cameron.
Ah oui.
Est-ce que tu as des muses?
Des muses
qui t'inspirent pour ton travail?
Non, mais c'est vrai que j'ai mis longtemps à me rendre compte qu'il y avait des gens que j'admirais beaucoup. Voilà, je saurais pas dire mes références tout de suite là, parce que ça change, ça peut avoir des vagues. Mais oui, parfois je vais avoir une admiration totale pour des artistes et voilà. Et des muses aussi, bah évidemment, les gens qui m'entourent m'inspirent beaucoup, bien sûr. Je les observe.
Proches, famille, amis, j'imagine.
Oui, voilà. Oui, c'est surtout ça. Parce qu'en fait, on a une époque où j'ai pas trop de, enfin, j'ai pas de télévision ni rien du tout. Donc c'est vrai que c'est les gens autour de moi, évidemment. Oui.
Merci beaucoup, Bikini, d'avoir
Merci
répondu à mes questions.
C'était super.
Est-ce qu'on peut peut-être rappeler les dates de comment on vient à l'expo, comment ça marche?
Alors, normalement, je suis là le jeudi et le vendredi après-midi, 13h30. Parfois, je reste un peu plus tard que 19h. Après, je conseille plutôt de... Il y a un petit numéro sur l'affiche quand on passe devant Place Mossé. Peut-être on peut aussi me convoquer. Je suis là très rapidement pour que je me déplace et que je fasse visiter l'expo. Mais sinon, c'est jeudi après-midi, vendredi après-midi, jusqu'au 29 juin.
Chez Arco.
Exactement.
Merci beaucoup encore d'avoir répondu à mes questions. C'est la fin de ce CDLP, chers auditeurs, merci de m'avoir écouté. L'après-midi continue avec de la musique pop-rock metal sur BKFM, c'est parti.